Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les œuvres de miséricorde. Nous avons déjà vu les 7 œuvres de miséricorde corporelles et nous avons commencé, lors de la dernière émission, les 7 œuvres de miséricorde spirituelles. Je vous rappelle donc que les œuvres de miséricorde, ce sont des actions d'amour, mais non pas n'importe quel type d'amour, mais un amour de charité, c'est-à-dire l'amour qui se donne, qui est don de soi. Et en plus, un amour de charité qui se penche vers la misère de l'autre. Pour cela, nous les appelons œuvres de miséricorde, un amour de charité qui se penche sur la misère de l'autre. Et cette misère peut être de type matériel ou de type spirituel. Nous avons déjà vu l'œuvre de conseiller ceux qui sont dans le doute. Et aujourd'hui, la deuxième œuvre de miséricorde spirituelle, c'est enseigner aux ignorants. Alors mes frères, la tâche de l'enseignement est une des actions, des activités les plus nobles de l'esprit humain. Pouvoir enseigner quelque chose à quelqu'un, même les choses les plus petites, parce qu'ici, on va en parler bien sûr, et ça comprend surtout l'évangile, la foi, les données de la foi, bien entendu. Mais tout d'abord, on ne spécifie pas enseigner aux ignorants. Donc même un frère qui aide l'autre à faire ses devoirs maison à la sortie de l'école, un grand frère qui aide un petit frère ou des amis ou d'autres personnes, accomplit une œuvre de miséricorde. Et par exemple, quand nous enseignons aussi en travail manuel, parce que quand on pense à l'enseignement, on pense peut-être tout de suite à des choses abstraites de l'esprit, donc les devoirs maison, comme je disais tout à l'heure, les mathématiques, la philosophie, on va y revenir. Mais pas seulement, aussi quand on enseigne un métier. C'est très important aujourd'hui, avec la spécialisation du travail, des métiers, on a ce risque du manque de contact humain. C'est vrai que les jeunes doivent faire des stages, des alternances, et c'est très bien. Mais quand on croise quelqu'un qui veut apprendre un métier, on risque de se dire « il n'y a qu'à aller à l'université, que suivre un cours, un BTS, etc. » Et oublier que souvent, les choses les plus importantes d'un métier ne sont pas transmises à l'école, mais sont transmises par ceux qui ont plus d'expérience. Combien de personnes, en sortant de l'université et en commençant dans le monde du travail, se sentent perdues parce que finalement, ils ont eu beaucoup de théories et dans la pratique, les choses doivent être adaptées, il y a des façons de faire, etc. Et c'est là que les personnes, disons, avec plus d'expérience, même des personnes âgées, des personnes à la retraite, peuvent être d'une grande aide pour venir aider ces personnes-là précisément, enseigner ce qu'ils ont acquis avec l'expérience tout au long des années. Mais bien sûr, quand on parle d'enseigner aux ignorants, il faut aller plus en profondeur. Parce que le plus important, c'est bien sûr donner raison à l'espérance qui est en nous. Dans la lettre de Saint-Pierre au chapitre 3, il nous dit que nous devons toujours être prêts à donner raison de l'espérance qui est en nous. Et Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique « Foi et raison » de 98, du siècle dernier, insiste beaucoup sur cette tâche décisive pour notre monde actuel. Il affirme, Jean-Paul II, qu'il est illusoire de penser que la foi, face à une raison faible, puisse avoir une force plus grande. Au contraire, la foi sans la raison tombe dans le grand danger d'être réduite à un mythe ou à une superstition. Et il conclut donc en affirmant qu'il n'y a pas en effet de préparation plus urgente aujourd'hui que celle-ci, conduire les hommes à la découverte de leur capacité de connaître la vérité et de leur désir d'aller vers le sens ultime et définitif de l'existence. C'est-à-dire provoquer dans les personnes, chez les gens, ces questions fondamentales est aussi enseigner aux ignorants. C'est-à-dire aider les gens à se poser des questions sur le sens de la vie, sur la recherche de la vérité, pas seulement au niveau de la connaissance, mais au niveau de la vie aussi. C'est très important. Et nous avons, bien sûr, le plus grand enseignement, c'est la transmission de la foi, l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Et nous avons dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, un moment très important où le Seigneur nous donne à voir à travers un épisode ce qu'est l'enseignement de la foi, ce qu'est la transmission de l'annonce de Jésus-Christ. Je vous invite à l'écouter. C'est une lecture qui est prise du chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur s'adressa au diacre Philippe et lui dit « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant. « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, mais il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée, sa postérité, qui la racontera ? Car sa vie est retranchée de la terre. » S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et il fit arrêter le char, ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien, mes frères, nous voyons comment Philippe a enseigné à cet eunuque qui cherchait à comprendre, qui lisait même la Bible, c'est-à-dire on peut lire la Bible sans la comprendre, qui ne savait pas de qui on parlait dans cette parole. Et Philippe profite pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et finit par baptiser l'eunuque. Donc c'est un exemple pour nous de comment transmettre la foi, de comment annoncer Jésus-Christ aux personnes qui nous sont autour ou qui demandent, qui se posent des questions. Le pape François, dans sa première exhortation apostolique qui s'appelle « La joie de l'Évangile », qui date de 2013, a souhaité clarifier ce qu'il fallait enseigner à ceux qui ignorent tout de la foi chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup même qui viennent à l'Église, qui s'approchent de l'Église, ne connaissent presque rien de la foi chrétienne. Encore, il y a quelques décennies, on apprenait l'histoire sainte, comme on disait à l'époque, on apprenait tel ou tel épisode de la Bible, de la vie des saints, les grands vitraux des églises, des cathédrales, nous aidaient à creuser un peu l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église, etc. Mais aujourd'hui, beaucoup ignorent tout de la foi chrétienne. Donc le pape s'est recentré sur le cœur fondamental en précisant ceci. Toutes les vérités révélées procèdent de la même source divine et sont crues avec la même foi. Mais certaines d'entre elles sont plus importantes pour exprimer plus directement le cœur de l'Évangile. Dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. En ce sens, le Concile Vatican II a affirmé qu'il existe un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne. Fin des citations. Bien, mes frères, c'est vrai, l'annonce du kérigme, le cœur de notre foi, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui veut nous sauver, qui envoie son Fils Jésus-Christ, qui verse son sang pour nous et que le Père ressuscite pour notre justification, pour nous ouvrir la porte du ciel, voilà le cœur, le noyau fondamental de notre foi. Ensuite, toutes les vérités de notre foi chrétienne tourne autour dans un ordre, dans une hiérarchie. Et évidemment, quand les gens s'approchent de l'Église, il faut que les personnes qui accompagnent, que ce soit quelqu'un de la famille, les prêtres lui-même, les catéchistes, aient un peu ce discernement. Parce qu'évidemment, les gens qui s'approchent de l'Église, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de savoir quelle est la différence entre quels sont les noms des vêtements de l'évêque ou comment s'appellent les grands chapeaux de l'évêque, la mitre, non, pour dire qu'on me parle les gens qui s'approchent de l'Église et qui ne comprennent rien. Peut-être qu'ils ont plutôt besoin de savoir que Dieu est leur Père, qu'il les aime comme ils sont, qu'il envoie son Esprit, l'Esprit du Christ est ressuscité pour changer leur vie, pour qu'ils puissent vivre désormais une vie nouvelle, etc. Et puis les choses utiles de l'Église, les choses un peu accessoires, ils apprendront par la suite. Bien sûr, la même chose pour les fêtes liturgiques. Peut-être qu'avant de parler de tel ou tel saint, il vaudrait mieux leur parler de Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, ils verront comment cette bonne nouvelle du Christ s'est accomplie concrètement dans la vie d'hommes et des femmes du monde entier. Vous voyez ? Et donc, le pape François nous rappelle cela. Et ceci vaut pour les dogmes de la foi, mais vaut aussi pour l'ensemble des enseignements de l'Église, y compris l'enseignement moral. Et le pape précise un peu plus loin dans le même document, la joie de l'Évangile. Ainsi, comme le caractère organique entre les vertus empêche d'exclure l'une d'elles de l'idéal chrétien, aucune vérité n'est niée. Il ne faut pas mutiler, évidemment, l'intégralité du message de l'Évangile. Chaque vérité se comprend mieux si on la met en relation avec la totalité harmonieuse du message chrétien. Et dans ce contexte, toutes les vérités ont leur importance et s'éclairent réciproquement. C'est-à-dire, mes frères, que même dans la morale, c'est-à-dire dans l'agir chrétien, nous avons déjà fait une émission sur les vices et vertus, et même ces émissions sur les œuvres de miséricorde sont dans la morale, dans l'agir, comment agir en tant que chrétien. Et même dans la morale, il y a une certaine hiérarchie. Et on ne peut pas transformer la morale chrétienne quand on l'enseigne aux ignorants, comme dit cette œuvre de miséricorde. On ne peut pas la transformer en un moralisme, c'est-à-dire en une imposition des règles à suivre à la ligne sans lesquelles on n'est plus avec Dieu, etc. Bon, voilà, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il faut les présenter dans l'optique de l'homme qui est sauvé par Jésus-Christ, qui a rencontré Jésus-Christ et qui peut vivre désormais par l'Esprit. Un homme qui s'est vu imposer un joug suave, un fardeau léger, qui est le fardeau du Christ, grâce à l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Vous voyez, ce n'est pas une question d'être en règle, ou comme à l'école, d'avoir tout bien fait ses devoirs. Non, au contraire, la morale chrétienne découle de notre vie dans le Christ et par le Christ, qui nous vient notamment de la prière et des sacrements, bien entendu. Alors, mes frères, dans ce cadre de l'enseignement, donc cette œuvre de miséricorde enseignée aux ignorants, je voudrais souligner trois catégories, si on peut dire comme ça, trois groupes de personnes qui ont la charge, tout particulièrement la charge de l'enseignement. La première catégorie, donc le premier groupe de personnes, c'est les prêtres, bien sûr prêtres et évêques, qui par l'ordination ont reçu les trois ministères du Christ, les trois munera, on dit en langage technique, mais les trois ministères du Christ, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de conduire le troupeau du Seigneur, le peuple de Dieu. Donc la fonction de l'enseignement, le ministère de l'enseignement est le premier ministère du prêtre. À l'ordination, la première question que l'évêque pose à celui qui va être ordonné prêtre, c'est s'il est disposé à annoncer la parole de Dieu, annoncer l'Évangile. Et donc, c'est très important pour nous, les prêtres, de pouvoir non pas seulement, commenter la parole de Dieu, mais transformer notre parole, notre prise de parole, en un vrai enseignement. Il y a plusieurs façons de le faire, bien sûr, à travers les homilies, à travers les catéchèses, à travers des entretiens personnalisés, personnels. Nous pouvons toujours enseigner, sans oublier que nous aussi, nous sommes enseignés, sans oublier que les prêtres aussi apprennent beaucoup de choses, que ce soit des laïcs, des autres fidèles, mais aussi toujours en approfondissant les données de la foi. Personne, même pas le pape ou les évêques, ne connaissent tout, évidemment. Donc, on peut toujours approfondir, on peut toujours chercher à comprendre mieux, à apprendre des choses nouvelles dans le cadre de la foi. Le deuxième groupe des personnes à qui l'enseignement est confié tout particulièrement, ce sont évidemment les enseignants, les professeurs, les instituteurs, etc. Et ils ont un vrai rôle dans la société. C'est une grande œuvre de miséricorde, c'est même une mission, une vocation que d'enseigner aux jeunes, aux enfants. Et je vous rappelle, on ne parle pas que du donner de la foi dans cette œuvre de miséricorde, même quand on enseigne les maths, comme on dit, ou même quand on enseigne la philosophie, ou quand on enseigne l'histoire, très important que d'enseigner l'histoire, la langue à travers laquelle on pourra se communiquer, à travers laquelle on prie. On n'oublie jamais, on ne faut pas oublier qu'on prie Dieu dans une langue concrète, avec des mots concrets. Donc même l'enseignement de la langue est important. Vous voyez, savoir s'exprimer, bien exprimer sa pensée, etc. Bon, vous le savez très bien. Donc là aussi, c'est très noble, très, très important de mettre en valeur le rôle des professeurs, des enseignants. Et le troisième groupe à qui l'enseignement est tout particulièrement confié, ce sont les parents. Les parents, c'est fondamental. Les premiers catéchistes des enfants, les premiers enseignants des enfants, ce sont les parents. Et pas seulement en action, pas seulement en parole, vous l'aurez compris, mais aussi en action, voilà, par des actions concrètes. Les enfants, on dit souvent, ils sont des éponges, les jeunes, ils sont des éponges, c'est-à-dire ils s'imprègnent de tout ce qui est autour. Donc la façon de parler, les goûts, les manières de faire, d'être en relation avec les autres, tout même, si vous voulez, l'amour, le soin de la création. En voyant comment les parents prennent soin d'un jardin, d'un animal, de la création en général. Et les enfants apprennent aussi à prendre soin de la création, de la nature, mais pas seulement. La façon de traiter les personnes les plus pauvres, les personnes les plus exclues de la société, et le rapport au pardon, à l'humilité, à l'amour, etc., tous les restes. Donc c'est très important pour les parents, que de se souvenir que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font marquera les enfants et les jeunes à vie. C'est-à-dire que quand ils auront, parce que je pense que c'est notre cas, nous aussi, les adultes, nous nous souvenons encore de ce que nos parents, nos grands-parents disaient, ce qu'ils faisaient. Ils faisaient ceci de telle manière. Tel jour, à Noël, elle allait toujours à la messe, ma grand-mère, etc. Donc on peut, et ça peut même raviver un jour la lumière de la foi. Peut-être qu'à cause des aléas de la vie, les enfants, les jeunes, quitteront un petit peu la foi, l'Église, la pratique en tout cas, et grâce à ce souvenir de l'enfance, de l'adolescence, un jour, qui sait, le Seigneur utilisera ces souvenirs-là pour raviver une flamme dans leur cœur, pour qu'ils, en se disant, « Je me rappelle que mes parents faisaient toujours la prière avant de manger. Je me rappelle que le soir, avant de nous coucher, on faisait toujours « Je vous salue Marie ». Ne serait-ce que ça. Vous voyez, où je me rappelle ceci, ou à Pâques, ou à Rameau, etc. Et donc, ça peut aider, bien sûr, ce n'est pas tout, comprenons-nous bien, mais c'est déjà une aide, ça fait déjà partie, ou la crèche à Noël, rien que de faire la crèche à la maison à Noël, une petite crèche peut marquer les enfants à vie. Alors, mes frères, je vous encourage vraiment à vous donner à cette tâche de l'enseignement, aux grands-parents aussi, hein, bien sûr, sans prendre la place des parents, c'est évident, mais dans le rôle qu'elle est leur, de pouvoir aussi aider les parents dans l'enseignement des enfants et des jeunes.
Mon Père, vous nous avez dès le début dit que celui qui accomplit totalement les œuvres de miséricorde, c'est le Christ, c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous enseigne. Alors comment, par rapport à cette œuvre de miséricorde, on peut se situer ?
C'est vrai, vous avez raison. Toutes les œuvres de miséricorde, j'avais dit ça pour les autres œuvres, c'est Dieu qui les accomplit le premier, le Christ en tant qu'homme aussi. Et plus nous les accomplissons, plus nous ressemblons à Dieu. Et le chemin inverse est vrai aussi. plus nous ressemblons à Dieu, plus nous pouvons les accomplir. Et c'est la même chose pour l'enseignement. C'est-à-dire que Dieu est le premier qui nous enseigne. Tout à l'heure, je disais que les parents doivent enseigner aux enfants en parole et en acte. Parce que Dieu nous enseigne en parole et en acte. Dieu nous enseigne par sa parole, qui passe par la Bible, qui passe par la parole de quelqu'un qui nous annonce l'Évangile, qui nous conseille. C'était l'œuvre de miséricorde précédente. Mais Dieu nous enseigne aussi par les actions. On risque de l'oublier. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas de châtiment divin, comme on entend parfois malheureusement, mais c'est Dieu qui nous enseigne. C'est Dieu qui est un fin pédagogue. Vous savez, on le voit dans la Bible. Dieu, il fait une histoire avec son peuple. Il ne dit pas les mêmes choses à Abraham qu'il ne dit à Moïse, qu'il ne dit au prophète Isaïe, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc il a une histoire pleine de pédagogie, Dieu, avec son peuple. Et cette histoire, il l'a fait avec nous. Avec beaucoup de soins, de délicatesse, de doigté, Dieu est en train de nous conduire vers lui à travers toutes les actions qu'il réalise dans notre vie. Et dans la vie du Christ, c'est la même chose. Si nous ouvrons les évangiles, nous allons voir le Christ qui enseigne dans la façon la plus basique, comme on l'entend, c'est-à-dire qui fait des discours, le sermon sur la montagne, qui raconte des paraboles, qui les explique après aux disciples, etc. Mais nous voyons aussi Jésus qui agit à travers les miracles, en chassant les démons, et surtout par sa mort sur la croix. Le Christ sur la croix nous a enseigné qui est Dieu, nous a montré qui est le Père. Qui m'a vu a vu le Père, Philippe. C'est-à-dire qu'en regardant la croix du Christ, nous apprenons que Dieu est amour, que Dieu se donne, que Dieu n'est pas, en voyant nos péchés, en voyant la situation du monde, que Dieu ne décide pas de supprimer le monde, qu'il ne sent pas le dégoût du monde, mais au contraire, qu'il se donne, qu'il rentre, qu'il se mêle de nos affaires, qu'il prend sur lui nos péchés, pour les pardonner gratuitement, pour qu'il y ait moyennant la foi, bien sûr, il exige toujours la participation que nous croyons à cette œuvre du salut, moyennant la foi, nous puissions accéder à cette miséricorde et à la vie éternelle qu'il nous promet. Donc, puisque Dieu nous enseigne par des paroles et par des événements, des actions, nous aussi, nous sommes appelés à faire de même pour nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont les plus miséreux, ceux qui ont le moins de connaissances, pour qu'ils puissent aussi connaître Jésus-Christ et son amour pour nous. Bonne journée à tous.